l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous.
VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 1er février 2021. Bonjour, bienvenue. La puissante armée birmane a organisé un coup d'État aujourd'hui, arrêtant la chef du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi, désignant un général comme président de la République par intérim et proclamant l'état d'urgence pour un an. Le pouvoir est transféré au commandant en chef de l'armée, le général Min Aung Hlaing, a indiqué l'armée dans un discours diffusé sur sa chaîne de télévision. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné fermement, tandis que le Conseil de sécurité devrait se réunir dans les prochains jours. Avec l'arrestation d'autres dirigeants politiques et la déclaration du transfert de tous les pouvoirs, législatifs, exécutifs et judiciaires aux militaires, ces développements portent un coup dur aux réformes démocratiques en Birmanie, a fait savoir Antonio Guterres dans un communiqué. Une voiture piégée a explosé et fait au moins 5 morts et plus de 25 blessés dimanche en Syrie, dans le nord d'Alep, selon le journal syrien Al-Watan. L'agence de presse d'État Sana a rapporté que l'attentat à la bombe était survenu dans la ville d'Azaz, mais n'a pas précisé le nombre de personnes tuées ou blessées. La Turquie, alliée à certains groupes rebelles opposés au président syrien Bachar al-Assad, contrôle la zone où l'explosion s'est produite. Une voiture piégée a explosé dimanche lors d'une opération suicide présumée dans la capitale somalienne et a été suivie d'une fusillade entre assaillants et forces de sécurité dans un hôtel, faisant un nombre indéterminé de victimes selon des témoins et les autorités. Le groupe islamiste militant Al-Shabaab, qui est lié à Al-Qaïda et mène régulièrement des attentats à la bombe dans le cadre de sa guerre contre le gouvernement somalien, a revendiqué la responsabilité de cette attaque. L'agence France Presse évoque au moins 3 morts. Le parc national du Diaoling, site de conservation de la nature et grande attraction touristique au sud-ouest de la Mauritanie, est fermé depuis ce week-end après l'apparition de la grippe aviaire qui a décimé des centaines de pélicans, affectant ainsi les deux côtés du fleuve Sénégal, ont annoncé les autorités. Comme sur l'autre rive du Sénégal, dans le grand parc sénégalais du Djouge, c'est la grippe qui est à l'origine du phénomène selon les résultats préliminaires des tests de laboratoire. Le Ghana a réimposé une interdiction des rassemblements festifs, culturels ou pour certains événements familiaux sur fond d'augmentation du nombre des cas de COVID-19 dans ce pays ouest africain. Le président Nana Akufo-Addo a déclaré qu'un recours à des mesures plus strictes était désormais nécessaire. Le premier ministre algérien Abdelaziz Gérard a promis dimanche que son gouvernement allait acquérir des vaccins anti-Covid en quantité suffisante au lendemain du lancement de la campagne de vaccination qui va durer toute l'année. L'Algérie, pays le plus peuplé du Maghreb avec 44 millions d'habitants, qui a annoncé fin décembre avoir commandé 500 000 doses du vaccin Sputnik 5 à son allié russe, devrait réceptionner dimanche soir un premier lot du vaccin britannique AstraZeneca Oxford, avant de recevoir également des lots en provenance de Chine et d'Inde. Une équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé pour enquêter sur les origines du coronavirus s'est rendue dimanche sur le marché de vente en gros de produits de la mer dans la ville chinoise de Wuhan, où le nouveau coronavirus a été détecté pour la première fois. L'enquête de l'OMS à Wuhan souffrait de plusieurs états à cause notamment des échanges houleux entre la Chine et les États-Unis. Ces derniers, Washington notamment, a accusé Pékin de dissimuler l'étendue de la première vague et critiqué les conditions de la visite de l'Organisation mondiale de la santé, alors que la première phase de recherche sur le marché a été confiée à des experts chinois. VOA Afrique Info, en ligne de mire dans ce journal. Au Niger, le Conseil constitutionnel donne son feu vert pour le second tour de la présidentielle au duel Mohamed Bazoum, Mahman Ousmane, et ce sera le 21 février prochain. 10 sénateurs républicains ici aux États-Unis ont annoncé dimanche soir avoir proposé au président Joe Biden un plan d'aide économique alternatif de 600 milliards de dollars, un projet au rabais, mais qui, selon eux, pourrait faire consensus entre les deux parties. Et puis, en Russie, près de 5 000 personnes ont été arrêtées par la police lors de manifestations pour réclamer la libération de l'opposant Alexei Navalny. Jean-Roger Billon, nous sommes le 1er février 2021, on revient dans un moment, nous émettons de Washington. La suite de nos informations en ce lundi 1er février 2021, présidentielle au Niger, la Cour constitutionnelle a validé samedi les résultats du premier tour du scrutin qui s'était tenu en décembre. Le second tour prévu le 21 février fait place au duel entre le candidat du pouvoir Mohamed Bazoum et l'ex-président Mahamane Ousmane. Cette validation marque aussi le début de la campagne électorale. Les précisions de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Rien de particulier n'indiquait ce dimanche au niveau des quartiers généraux des deux candidats que cette campagne est lancée. La faute peut-être à l'annonce en milieu de soirée de la validation par la Cour constitutionnelle des résultats du premier tour qui conditionnait le début de la dite campagne pour le second tour. Un second tour prévu le 21 février prochain et qui mettra face en face Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, et Mahamane Ousmane du RDR Tianji, membre de l'opposition politique. Ce sont en effet les deux qui sont arrivés en tête du premier tour avec respectivement 39 et 16% des suffrages. Les annonces de soutien des 28 autres candidats malheureux du premier tour aux deux premiers ont commencé. Mohamed Bazoum a déjà reçu 4 contre 0 pour Mahamane Ousmane, même si les plus attendus et probablement les plus déterminants que sont Seni Oumarou du MNSD Nassara, arrivé 3e, et Albadie Abouba du MPR Jambouria, arrivé 4e, sont encore attendus. Abdel Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, 10 sénateurs républicains ont proposé à Joe Biden un plan d'aide économique alternatif à son gigantesque paquet de mesures de 1900 milliards de dollars. Ils disent que leur proposition pourrait faire consensus entre les deux parties. Michel Joseph.
J'ai rejoint un groupe de 10 sénateurs républicains en écrivant au président Biden aujourd'hui pour lui proposer un projet de loi alternatif au projet de sauvetage d'urgence, capable de recueillir un soutien bipartisan, a annoncé Susan Collins, sénatrice du Maine, sur Twitter. Les détails du plan alternatif seront dévoilés ce lundi, ont indiqué les signataires qui ont également demandé un rendez-vous avec le président Biden lui-même. Selon le Washington Post, la contre-proposition s'élèverait à 600 milliards, moins d'un tiers que le montant prévu dans le projet de loi actuel. Les économistes sont unanimes sur le fait qu'un nouveau plan est incontournable. Le conseiller économique de la Maison-Blanche, Brian Deese, a souligné dimanche sur CNN que les dispositions du plan du président avaient été calibrées pour surmonter la crise économique actuelle. Mais les républicains sont farouchement opposés au montant qu'ils trouvent trop élevé et qui va creuser davantage la dette et le déficit budgétaire des États-Unis.
La police russe a procédé hier à plus de 4800 interpellations et bloqué le centre de plusieurs villes, dont Moscou. C'était au cours de nouvelles manifestations en Russie pour exiger la libération de l'opposant Alexei Navalny. Ces arrestations ont été immédiatement condamnées par les États-Unis, le Canada et l'Union européenne. Eric Manirakiza.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a regretté les tactiques brutales de la police contre des manifestants pacifiques. De son côté, la diplomatie russe a dénoncé l'ingérence grossière des États-Unis dans ses affaires intérieures. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a déploré les interpellations massives et l'usage disproportionné de la force contre les manifestants et les journalistes. Les gens doivent avoir la possibilité d'exercer le droit de manifester sans crainte de répression, a-t-il déclaré sur Twitter. Le Canada est profondément préoccupé par les détentions massives et le recours à la force contre les manifestants et les journalistes en Russie, a déclaré le chef de la diplomatie canadienne, Marc Garneau, dans un tweet. Nous exhortons la Russie à libérer les personnes détenues, à respecter ses engagements internationaux et à protéger la liberté de la presse, a ajouté le ministre. Selon l'Union des journalistes russes, au moins 60 membres de la presse ont été arrêtés. L'équipe de M. Navalny a appelé les partisans de l'opposant à aller le soutenir au moment de sa comparution devant un tribunal demain mardi.
C'est maintenant l'heure de la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
En Mauritanie, le projet Pompège a créé plus d'1 millier d'emplois et lancé plus de 600 micro, petites et moyennes entreprises.
900 entrepreneurs, dont 40% de jeunes, ont bénéficié d'un appui technique et professionnel. Environ 840 femmes et jeunes filles ont aussi reçu des équipements par le biais d'une location avec option d'achat. Pompège a été financé en 2017 par un prêt de 3,5 millions de dollars de la BAD et un don de 714 000 dollars du Fonds africain de développement. Le Libéria va augmenter de 300% son électricité d'ici à mars, soit près du triple de sa capacité actuelle grâce à la mise en service d'une ligne électrique de 1357 km depuis la Côte d'Ivoire. La ligne Transco est un projet que la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Gambie ont lancé depuis plusieurs années. Elle est achevée à plus de 90%. Elle va baisser le prix de l'énergie et alimenter 70 écoles, 30 centres de santé et 1500 entreprises. Le projet a coûté plus de 500 millions de dollars avec l'appui de la Banque mondiale, la BAD et l'Allemagne. Pour terminer, au Togo, 8 organisations de la société civile recevront environ 135 millions de francs CFA du PNUD en vue de renforcer leur capacité pour la conservation de la diversité biologique, la lutte contre les changements climatiques et la dégradation des terres, la pollution des eaux internationales et la gestion des déchets de produits chimiques. Chaque projet recevra entre 10 et 22 millions de francs CFA.
Passe à présent à la page des sports entièrement consacrée au championnat d'Afrique des nations de football en cours au Cameroun. À Yaoundé, retrouvons Emmanuel Julentap.
Bonjour. Les combinaisons des demi-finales de CHAN 2020 affichent complet. À l'issue des derniers quarts de finale disputés dimanche. À Douala, victoire facile du Maroc face à la Zambie, 3 buts contre 1. Pendant plus d'une heure, les Chipolo Polo ont joué à 10 contre 11 suite à l'expulsion dès la 21e minute du latéral gauche Zakaria Silongoshi. La Zambie a réduit le score à la 80e minute. À Limbé, dans un match très engagé, la Guinée-Conakry a composté son ticket pour les demi-finales par une courte victoire, 1-0. Morlaï Silla a inscrit l'unique but de la partie sur coup franc parfaitement exécuté à l'entrée de la surface de réparation à la 60e minute. Guinéens et Rwandais ont achevé le match à 10 après l'expulsion d'un joueur dans chaque équipe. Samedi, dans le premier quart de finale du CHAN 2020, joué au stade Omnisports de Yaoundé, les Aigles du Mali ont validé leur ticket pour les demi-finales en battant les Diables Rouges du Congo par 5 pénaltys contre 4. Kader Traoré.
À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes se tenaient au coude à coude, 0 but partout. Il a fallu recourir aux prolongations, puis à la séance des tirs au but pour que le Mali s'impose par 5 pénaltys réussis contre 4. Le sélectionneur malien Nouhoun Diané sait qu'il n'y aura plus de match facile, mais pour lui le plus important, c'était de se qualifier pour les demi-finales.
Pour nous, l'objectif, c'était quand même de tout faire pour passer et on n'est pas revenu à le faire. On savait que ça n'allait pas être facile et le prochain match, ça sera la même. Le plus important aujourd'hui, c'est de permettre aux joueurs de récupérer parce qu'on a senti aujourd'hui un peu de baisse de régime, de fatigue.
Du côté des Diables Rouges, il fallait tout faire pour ne pas arriver à la fin des 120 minutes sans tirer gain du match. Surtout que l'équipe a été beaucoup perturbée par cette histoire de test Covid. Barthélémy Ngatsono, le sélectionneur congolais, nous en dit beaucoup plus.
En arrivant ce match, nous savions qu'il pouvait se terminer soit par un score nul et on pourrait aller aux prolongations. Nous avons fait des séances de tir de but chaque fin d'entraînement, mais aujourd'hui ça n'a pas marché. Nous-mêmes, on se disait qu'il fallait terminer ce match avant qu'on parte aux prolongations. Bon, ça, je ne pouvais pas le dire aux joueurs, parce que dans la mesure où on nous dit qu'à 14h, il y a tel joueur qui ne pourra pas être là, ils étaient déjà touchés. Donc, je savais qu'en abordant cette étape-là, ça ne devait pas bien marcher pour moi.
Le Mali, qualifié donc pour la demi-finale, va se concentrer sur sa récupération physique avant d'affronter la Guinée le mercredi prochain.
Au stade de Japoma à Douala, le derby entre Lyon Indomptable et Léopard a tourné en faveur du Cameroun. Valdo Yamba Yamba.
Fin de l'aventure de la RDC, la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, battu 2-1 par le Cameroun en quart de finale, alors que le Léopard était les premiers à trouver les chemins défilés par l'Ilepo, 21e minute. Un Cameroun moins dangereux, mais renversant, qui a mis à profit deux erreurs du gardien Matampi, explique les sélectionneurs congolais Florent Ibengué.
Il y a deux erreurs de notre gardien qui remettent le Cameroun devant.
Deux erreurs qui ont coûté deux buts associés à une domination stérile en seconde période. Les Léopards n'ont pas su revenir à la marque, regrette l'entraîneur congolais.
En seconde mi-temps, on a beaucoup tenté. On a eu une domination un peu stérile et c'est ce qu'on regrette un petit peu.
Au finish, c'est les Cameroun qui l'emportent au terme d'un match bien préparé. À en croire l'entraîneur des Lions, Martin Tungu.
Je pense qu'on s'est préparé pour apporter que ce match, le match a été parce qu'en face, il y avait une très belle équipe de la RDC.
Une victoire bien préparée à la fois sur le terrain qui dans les tribunes, Yannick Djeng, premier buteur camerounais dans ces matchs, salue l'apport du public des Douala.
Ils ne nous ont pas sifflé, au contraire, ils nous ont donné des ailes, ils ont poussé et ça nous a permis de revenir à un but partout et de prendre l'avantage avant la pause.
Le public camerounais satisfait de sa sélection qui lui a rendu l'ascenseur avec cette qualification en demi-finale.
Le niveau de Lyon a amélioré et moi je pense même que ça a amélioré parce qu'ils sont venus à Douala jouer.
Au côté congolais, naturellement, la déception a gagné le terrain.
Très éliminé par une équipe camerounaise qui a démontré tout au long de la compétition qu'elle n'était pas aussi indomptable que ça.
La veille de ces derbies de l'Afrique centrale, il y a eu grogne sur des tests Covid chez les Léopards après que 13 autres joueurs aient été déclarés positifs alors que la contre-expertise imposée par la CAF n'a retenu que deux. Une situation décriée par l'entraîneur Florent Ibengué.
Il y a des gens qui ont fait ça sciemment avec ces tests Covid bidons. Donc j'espère qu'ils seront largement sanctionnés parce que ça passe au-delà du football.
Les demi-finales opposent ce mercredi dans un derby ouest-africain le Mali à la Guinée au stade de Japoma à Douala. Suivi d'une affiche alléchante, le tenant du titre, le Maroc, affronte le Cameroun, pays hôte, à Limbé. La finale se dispute le 7 février prochain, avec sans doute dans les gradins du stade Omnisports de Yaoundé, le président de la CAF, Hamad Hamad, qui a repris son poste hier. D'après un communiqué de la CAF vendredi, le tribunal arbitral du sport a levé provisoirement sa suspension, prononcée il y a 2 mois et demi. Voilà, c'est tout pour le sport ce matin. CHAN 2020, Valdo Yamba Yamba, Kader Kétar, Emmanuel Jeloutap, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique, Jean-Roger Billon toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, la principale formation politique de l'opposition ne présentera pas de candidat à l'élection présidentielle de mars 2021. L'UPADS dénonce l'impréparation dans ce scrutin majeur et accuse le gouvernement de n'avoir pas fait d'efforts ces 5 dernières années pour améliorer la gouvernance électorale. En conséquence, l'UPADS appelle ses militants à ne soutenir ni un candidat de l'opposition ni celui de la majorité au pouvoir. Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville, nous en dit plus.
Pas de candidat UPADS à la présidentielle de mars 2021. C'est une décision du Conseil national de la principale formation politique de l'opposition congolaise. Honoré Saï, le porte-parole de l'UPADS.
S'agissant de l'élection présidentielle et après débat, le Conseil national a décidé de la non-participation de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale au scrutin du 21 mars 2021.
Candidat malheureux en 2016 avec seulement quelques 4% des suffrages, le premier secrétaire du parti de l'ancien président Pascal Issouba n'est pas prêt à se remettre en flot en 2021. Pascal Tiatsema Biala, au sortir des assises de Diata.
C'est dur, c'est vrai, que le premier parti de l'opposition, que le chef de file de l'opposition ne participe pas au débat qui va s'engager dans le pays, mais c'était là notre position partagée. En raison des conditions de préparation générale de cette élection. Les conditions ne sont pas pleinement réunies. Elles ne sont pas réunies, nous l'avons dit à Madingou, mais nous ne sommes pas opposés au scrutin. Le scrutin aura lieu, mais malgré nous, nous ne serons pas partie prenante de cette élection.
La décision de l'UPADS, dirigée par le chef de l'opposition, a été vécue comme une surprise dans le pays. Pour le politologue Constant Ebarapeya, il s'agit d'une stratégie de la ruse.
Est-ce que M. Tiatsema Biala, qui dénonce et renonce à l'élection présidentielle de 2021 parce que les conditions ne sont pas réunies, ne serait-il pas tenté pour les élections législatives, tout en sachant que c'est là où va se jouer son avenir politique, dans la posture du chef de file de l'opposition, parce que les élections présidentielles ne sont pas un enjeu pour M. Tiatsema Biala et l'UPADS. L'enjeu, c'est l'élection législative. C'est que c'est une stratégie de la ruse.
L'absence de l'UPADS à cette élection majeure pourrait favoriser un autre candidat de l'opposition, Guy Brice Parfait-Kolela, dont l'investiture est attendue ce lundi après-midi dans son fief de Mpisa. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
En RDC, le gouverneur de la province du Nord Kivu s'est rendu dans la région de Beni pour évoquer avec les populations locales les questions de sécurité. Dans cette région en proie à des violences armées, la situation humanitaire reste préoccupante. Le reportage de Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma.
Durant trois semaines, les chefs de l'exécutif provincial a rencontré les associations, regroupements politiques et ceux de la société civile ainsi que les services de sécurité dans la région instable depuis sept ans. Carly Zanzuka Civita est venu soutenir les populations qui ont fui leur localité dans cette région de Beni.
Nous avons présenté les compassions du chef de l'État auprès de notre population. Nous avons réconforté nos forces armées de la République parce qu'au fait, on ne peut pas gagner la guerre sans des très beaux mariages entre l'armée et la population. Nous avons amené quelques assistances, des habits à manger. Nous savons qu'il y a encore plus qui sont dans les besoins. Nous allons continuer à mobiliser aussi la communauté internationale humanitaire pour que nos compatriotes puissent continuer à bénéficier de la solidarité nationale et internationale.
Dans ce village de Kalunguta, à plus de 30 km de Beni, la population traumatisée a sollicité du gouverneur plus d'efforts pour la reprise des activités agricoles dans cette région. Les chefs du groupement des cinq villages, Mouindo Meso. Nous demandons beaucoup plus le retour de la sécurité ici. Sur les cinq villages de mon territoire, je ne contrôle que deux. Tous les autres ont été vidés de leurs occupants. Nous soutenons nos autorités pour le retour de la paix ici. Et cela nous permettra de retourner dans nos champs. Parce que ici, notre seule activité, c'est les champs. La société civile locale, elle, souhaite plus d'implication de la communauté internationale présenté ici par la mission onusienne MONUSCO. Kizi Tobin Hangi, président de la société civile en ville de Beni.
Avec la FICOM, il y a également le renforcement des effectifs de la police au niveau de la MONUSCO. Bon, nous pensons qu'avec ces renforcements-là, des effectifs, peut-être ils seront à la hauteur de nous garantir la sécurité.
Sur le plan économique, le gouverneur Kasivita a lancé la création d'un espace d'encadrement d'incubateur pour une relance de l'économie locale. Le député provincial Jean-Paul Lumbulumbu, fils du terroir et vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, lance un appel vibrant aux jeunes de quitter les groupes armés et venir servir dans l'économie.
Le gouverneur de province a été visiter l'espace qui devra abriter la première industrie, d'ailleurs, qui est déjà commandée dans le cadre de la zone économique spéciale. Voilà pourquoi nous avons tenu à lancer un appel à la démobilisation, le désarmement de tous les jeunes qui sont dans les groupes armés et qui traînent encore. Le chef de l'État nous avait promis à l'époque qu'il viendra séjourner ici au Nord Kivu. Nous sommes en train d'insister à l'inviter à venir passer au moins 6 mois dans la province du Nord Kivu. Je pense qu'à partir de là, il aura des informations non filtrées, des informations fraîches sur la situation sécuritaire. Et ça lui permettra de prendre des mesures, des dispositions qui permettront le retour rapide de la sécurité.
Rappelons que les États-Unis, via l'organisation AFRICOM, viennent de promettre un appui aux forces armées de la RDC dans la lutte contre la rébellion des ADF. La région de Beni, 350 km au nord de Goma, vit une situation de crise sécuritaire qui a touché sa production économique basée beaucoup plus sur l'agriculture. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
L'Afrique du Sud va recevoir ce lundi ses premiers vaccins contre le Covid. C'est le pays africain le plus touché par le coronavirus avec 1,45 million d'infections et près de 44 000 morts. Mais le processus de vaccination risque d'être lent. Les explications de notre correspondante à Johannesburg, Valérie Hirsch.
Ce premier contingent d'un million de doses du vaccin AstraZeneca est livré à l'Afrique du Sud par le Serum Institute qui le fabrique en Inde. Il permettra de vacciner la moitié du personnel médical sud-africain. Pretoria l'a payé au prix fort, $5 la dose, soit plus du double du prix payé par l'Union européenne qui a financé le développement de ce vaccin anglais. L'Afrique du Sud a pourtant participé aux essais cliniques de ce vaccin, mais elle n'a commencé à négocier avec le fabricant qu'en janvier, alors qu'il n'y avait plus de stock disponible, d'où la colère du président sud-africain Cyril Ramaphosa, mardi dernier lors du Forum économique mondial en ligne.
C'est nécessaire que ceux qui ont des surplus de vaccins les libèrent pour que d'autres pays qui en ont besoin puissent en avoir accès.
En attendant, Pretoria va recevoir cette année 20 millions de doses de différentes sources, de quoi vacciner un quart des adultes. Ce n'est pas suffisant pour atteindre l'objectif d'une immunité collective. Mais le gouvernement a été critiqué par des professionnels de la santé pour sa lenteur à négocier l'achat de vaccins. Le professeur Barry Choup préside le comité d'avis ministériel ministériel sur les vaccins.
Nous ne sommes pas seuls. Il y a des pays comme l'Australie qui vont seulement commencer à vacciner en mars. Les pays riches ont acheté 4 ou 5 fois plus que les besoins de leur population.
Les autorités ont lancé une campagne d'information pour encourager les Sud-Africains à se faire immuniser. Plus d'un tiers se méfie des vaccins selon une étude online faite sur 4400 personnes. Le professeur Karin Runciman de l'Université de Johannesburg.
Nous avons trouvé parmi les adultes que 69% des Noirs et 55% des Blancs sont d'accord de se faire vacciner. Les gens âgés sont plus favorables au vaccin que les jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui n'ont pas terminé leur scolarité sont plus enclins à se faire vacciner que ceux qui ont fait des études supérieures.
Seulement 10% des réticents à se faire vacciner invoquent les rumeurs comme la présence de microchips dans les vaccins. Les autres déplorent le manque de connaissances sur ces nouveaux vaccins et les éventuels effets secondaires à long terme. Ainsi, on ne connaît même pas l'efficacité du AstraZeneca sur le variant sud-africain, alors qu'il semble que ce dernier soit plus résistant à la plupart des vaccins déjà mis au point. Valérie Hirsch à Johannesburg pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Direction le Burkina Faso, c'est l'une des rares fois dans son histoire que le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, ne pourra pas se tenir comme prévu. La Biennale du cinéma africain devait se dérouler cette année du 27 février au 6 mars, mais les autorités, en raison de la situation de pandémie du COVID-19, ont décidé de reporter l'événement qui se déroule régulièrement depuis 1969. De Ouagadougou, des réactions de cinéastes avec notre correspondant, Lamine Traoré.
L'annonce est faite par Ousseini Tamboura, le porte-parole du gouvernement.
En principe, ce festival, selon le calendrier habituel, devrait se tenir du 27 février au 6 mars. Au regard de cette situation sanitaire liée à la pandémie, il sera difficile donc de tenir cette édition à cette date. Donc le Conseil des ministres a adopté la décision de reporter donc la tenue du FESPACO à une date ultérieure. Il ne sera pas facile pour nous d'indiquer une date puisque vous savez que c'est lié aussi à une situation que j'ai tantôt décrite.
Cet important festival de cinéma sur le continent est ainsi donc reporté.
Je pense que le gouvernement a été sage sur ce coup.
Hervé Eric Lengani est un réalisateur burkinabé bien connu.
Vu les dégâts que le virus il fait, je pense que c'est beaucoup plus sage de protéger les gens. On n'a pas véritablement le choix. Même Cannes a dû reporter à une date ultérieure, bon, pour plus tard, mais je pense que c'est beaucoup plus sage.
Rassmane Ouédraogo, lui, est un célèbre comédien burkinabé.
Je pense que ça ne doit étonner personne. Alors que partout on se confine, se décrète de couvre-feu, les États érigent des barrières entre États, c'est utopique de croire qu'on peut organiser le FESPACO dans ce cadre-là. C'est d'ailleurs une vigilance, c'est développer des précautions que de reporter et pouvoir d'ailleurs, pourquoi pas, profiter et repenser le FESPACO.
C'est bien dommage, ce report selon Jean-Baptiste Ouédraogo, président de la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel.
Le FESPACO pour nous, c'est comme un rituel, c'est comme un pèlerinage. C'est le seul moment où les cinéastes, les professionnels, les artistes du 7e art se retrouvent sur le sol fin du Burkina Faso pour se repenser eux-mêmes, repenser les problématiques de leur continent et repenser les problématiques du cinéma africain. C'est vrai qu'on voit une autre date. Et la question que nous on se pose, est-ce que c'est la bonne décision? Mais vu tous ces problèmes que nous traversons, je pense qu'il n'y a pas lieu aussi et que le cinéma contribue à être un foyer de contamination.
Le coronavirus a donc eu raison pour l'heure de l'un des festivals de cinéma les plus importants sur le continent, qui draine chaque 2 ans plusieurs milliers de festivaliers. La maladie, elle a fait plus d'une centaine de morts dans le pays et dépassé la barre des 10 000 contaminations. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur